Je reçois une autre invitée au téléphone, je l'en remercie, sur Liberté FM. Alain Rivière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes contrôleur général du SDIS de la Dordogne, directeur général, et vous publiez un ouvrage aux éditions Les Livres de l'Îlot qui s'appelle « Hautefort en flammes » où vous revenez sur l'incendie du 31 août 1968, une date qui a marqué l'esprit de la Dordogne, car l'ensemble de ce château de Hautefort a péri sous les flammes suite à une négligence humaine. Pour quelle raison d'abord avoir écrit ce livre hein, « Hautefort en flammes »
Tout simplement parce que le patrimoine en Dordogne est une valeur extrêmement importante. Hein. Le patrimoine fait la renommée du département. Et puis, à la suite de l'incendie de Notre-Dame de Paris, ça a réveillé les consciences. Et lorsque la direction du château de Hautefort est venue vers moi pour essayer de trouver des documents ou des témoignages pour relater cet incendie, je me suis dit pourquoi pas publier, parce que rien n'avait été écrit, peu de choses avaient été publiées sur le sujet, parce que longtemps tabou, malheureusement, comme vous l'avez dit, une négligence de jeunes filles qui visitaient le château à l'invitation de la baronne de Bastard, cette insouciance est resté longtemps tabou.
Pourquoi ?
Donc, on parlait peu. Parce que ça concerne, vous savez, un château qui était extrêmement important, qui est un des joyaux de la Dordogne et de Hautefort. Hein. Et puis, le fait que la baronne elle-même avait invité ces jeunes à visiter les combles, et que malheureusement, la baronne a été aussi quelque part imprudente en laissant partir les jeunes avec des cigarettes dans des combles, forcément il y avait une part de responsabilité également, et on en parlait assez peu, le traumatisme était très présent au sein de la famille de la baronne.
Comment le corps des pompiers, lui, a traversé cette épreuve, parce qu'il y a des témoignages aussi, bien sûr, dans cet ouvrage, je le rappelle, aux éditions Les Livres de l'Îlot.
Oui, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai souhaité écrire assez rapidement sur cet incendie, parce que les témoins deviennent de plus en plus rares. Il en existe cinq, parmi les sapeurs-pompiers, il en existe cinq. Deux à Périgueux, deux à Exideuil, et puis la standardiste, qui était la femme d'un pompier d'ailleurs, logée, qui a reçu l'appel 18 dans la nuit du 30 au 31 août, voilà. Donc les témoignages sont aujourd'hui très précieux, et ils m'ont permis de mieux comprendre le contexte de cette intervention difficile pour eux. Il faut se replacer dans le contexte de 68, avec des moyens...
qui étaient différents.
Pas du tout la même qu'aujourd'hui, forcément.
Et aujourd'hui, un tel incendie aurait-il les mêmes répercussions qu'à l'époque ? Est-ce que les conséquences seraient aussi dramatiques ? Parce que le château, hein, on l'a dit, a quasiment brûlé. Il ne restait plus que les murs.
Oui. Alors, oui, on a réussi à sauver les deux tours. Enfin, les sapeurs-pompiers de l'époque ont réussi à sauver deux tours parmi la chapelle et puis la tour de Bretagne, qui est une magnifique charpente du XVIe. Mais aujourd'hui, alors c'est la conclusion de l'ouvrage, et je laisserai les lecteurs s'y reporter, est-ce qu'aujourd'hui les sapeurs-pompiers feraient mieux ? La réponse n'est pas aussi simple.
Mais bon.
Voilà.
Pourquoi ?
Alors effectivement, les moyens sont supérieurs, les formations également, on a de la préparation. Le château a encore amélioré son niveau de sécurité. Mais malgré cela, on n'a pas la certitude aujourd'hui, selon le moment où le feu sera détecté, si la charpente est déjà totalement en flammes, comme ça a été le cas en 68, malheureusement, les sapeurs-pompiers feront leur maximum, comme d'habitude. Mais on a aujourd'hui... aucune certitude si on a sauvé le château. Non.
Vous reconstituez donc dans cet ouvrage aux éditions Les Livres de Lillo, Hautefort en flammes, ce qui s'est passé, le déroulement donc de ce 31 août 1968, à partir du moment où l'alerte a été donnée, toutes les casernes de Dordogne ont aussitôt été mobilisées. Comment ça s'est passé ?
Alors, l'appel arrive sur le 18 à la caserne d'Exideuil, qui est la caserne qu'on appelle de premier appel, qui est donc la caserne qui est rattachée à Hautefort. Donc vous voyez bien qu'il y a une certaine distance à franchir déjà entre Exideuil et Hautefort. Hein, donc là, tous les pompiers d'Exideuil sont alertés. On sait à ce moment-là que le feu est important, donc des renforts sont également sollicités. Donc il y a les pompiers de Brive qui vont venir avec une grande échelle, un fourgon pontonne, les pompiers de Périgueux avec une grande échelle également, et un fourgon pontonne. Et puis après, il y aura la caserne de La Noaille, la caserne de Montignac et de Terrasson. Voilà. Mmh. Bon, une cinquantaine de sapeurs-pompiers, mais c'est pas l'ensemble des pompiers du département. Hein. Mmh. Malheureusement, la partie est déjà perdue parce que le feu est propagé à l'ensemble du bâtiment, les étages sont en train de s'effondrer, les planchers bois s'effondrent, donc on sauve ce qui peut être sauvé au niveau des tapisseries. Quelques tapisseries sont sauvées par les sapeurs-pompiers, des tableaux, mais on a un problème d'alimentation en eau, ce qui va également compliquer l'attaque de cet incendie.
Jamais cette situation n'avait été jusqu'alors envisagée. Le risque de cet incendie sur ce château de Hautefort ?
Comme tous les châtelains, malheureusement, ils redoutent l'incendie, mais jamais ils s'y préparent suffisamment, en pensant que ça n'arrive qu'aux autres.
Comme toujours.
Donc la baronne était loin d'imaginer qu'elle allait être confrontée à cet incendie. Et elle mettra beaucoup d'années pour reconstruire, d'ailleurs.
Et pour retrouver le château tel que nous le voyons, majestueux aujourd'hui, évidemment, sur son éperon, mais il a fallu des décennies et une bataille rude pour qu'elle sauve et remette en état ce château qui est magnifique en déflorant, évidemment. Donc vous regroupez dans cet ouvrage, Hautefort en flammes, les témoignages de celles et ceux qui ont participé à ce sauvetage, parce que quand même, on a sauvé aujourd'hui ce château. Le procès verbal aussi des gendarmes. Comment avez-vous fait pour retrouver l'ensemble de ces documents avec des photos de l'origine de cet incendie ?
Oui, alors j'ai eu beaucoup de chance, d'abord grâce aux archives départementales, qui venaient de recevoir les archives du préfet, de l'époque. Les archives avaient été reversées aux archives départementales, et donc ils étaient en train de les numériser, de les classer. Donc j'ai pu accéder assez facilement. Et puis au sein du SDIS, au sein des casernes, on a aussi quelques archives, quelques photos qui ont été conservées, donc ça m'a permis également de retrouver ce genre de documents. Et puis j'ai pu rencontrer des témoins. À Hautefort, il existe encore un certain nombre d'habitants qui ont vécu cet incendie, et notamment la personne qui a pris photo couleur. Donc c'est une très grande richesse. Un des voisins, au moment du feu, au lieu de se rendre, comme beaucoup l'ont fait, dans la cour du château pour assister au désastre, lui, il est monté dans son grenier avec son appareil photo et a fait des clichés couleur qui sont d'une extrême grande qualité et qui ont été d'ailleurs publiés dans Paris Match dans la semaine qui a suivi. Et l'argent de la vente de ces photos à Paris Match a été reversé à la baronne pour participer à la reconstruction du château. Et donc j'ai pu bénéficier des originaux de ces photos couleurs par l'auteur même de ces photos, qui est Jean-Claude Roache. Voilà.
Et donc, vous retracez ensuite aussi l'histoire jusqu'à quasiment aujourd'hui de ce qu'est devenu ce château, accessible bien sûr au public, ouvert à la visite avec des spectacles. Mais vous avez tenu aussi à raconter l'après, la reconstruction du château.
Oui, parce que c'était un enjeu majeur. Est-ce que ce château allait devenir une ruine comme celui de l'Herme, d'ailleurs ? Il était question à un moment donné de se dire, malheureusement, le coût de reconstruction est assez colossal. Et donc, on n'a pas les moyens de reconstruire. Il risque de finir comme une ruine à l'identique du château d'Herve. Bon, la baronne va se battre par une mobilisation aussi très, très importante de la population. Donc, c'est ce que je démontre. Alors, à la fois les pouvoirs publics, le préfet sera un acteur majeur dès le lendemain de l'incendie pour mobiliser le gouvernement, le public. Il y aura cette grande émission chef-d'œuvre en péril du 1er décembre 68 qui va faire un appel à la générosité des Français. Et puis, bien sûr, le ministère de la Culture qui va jouer son rôle en subventionnant les travaux. Et c'est comme ça que le château va réussir à renaître. Mais avec la condition, c'est qu'il y ait un avenir à ce château. Et la baronne donc va créer à ce moment-là une fondation pour pouvoir faire vivre ce château, ce qui est encore le cas
aujourd'hui.
Aujourd'hui, il est propriété d'une fondation avec à la tête un descendant de la baronne.
Vous venez de parler de générosité de la part des Français, Alain Rivière, et vous faites un parallèle dans votre livre Hautefort en flammes entre deux dates, le 31 août 1968 et le 14 avril 2019, où là aussi les Français ont été généreux. C'était important pour vous de relater ces deux dates dans cet ouvrage ?
Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Autant ce château privé en 68, on aurait pu imaginer qu'il disparaisse dans la totale ignorance, insouciance. Comme Notre-Dame de Paris, il y a eu une ferveur particulière à reconstruire, à se mobiliser. Et puis, on a fait retravailler les meilleurs artisans pour pouvoir reconstruire. Donc, beaucoup de points. Et puis, ça a permis aussi de réveiller les consciences sur la fragilité du patrimoine en France. Et Hautefort, pour nous, reste aujourd'hui, pour les services d'incendie, un exemple.
Comment vous faites-vous
de fragilité.
Comment faites-vous justement pour se servir de cet incendie pour qu'il soit un exemple ?
Eh bien, lors de nos assises, vous savez que chaque année, le SDIS organise des assises sur la protection du patrimoine contre les risques d'incendie. Et à plusieurs reprises, donc le château de Hautefort a servi malheureusement d'exemple. Et pour nous, suivre l'évolution de la prévention dans ce château, c'est un modèle que l'on peut appliquer à d'autres, notamment en matière de détection, en matière de préparation et en matière de points d'eau.
On va terminer, Alain Rivière, cet entretien, parce que c'est l'été aussi et que chaque année, il y a des incendies, pour parler un petit peu de prévention, parce que c'est un geste, on l'a dit dans cet entretien avec vous, c'est un geste humain qui est à l'origine donc de ce drame, hein, une jeune femme qui va écraser son mégot dans de la sciure, alors qu'elle pensait, vous le dites d'ailleurs dans cet ouvrage, que c'était du sable, mais d'où l'importance d'être vigilant l'été avec par exemple une cigarette et autres. Mais
exactement. Malheureusement en France, chaque année, un nombre de feux de forêt conséquents, qui ont des conséquences dramatiques d'ailleurs, sont à l'origine humaine. 80% hein, des feux de forêt sont à l'origine humaine. Et le jet de cigarette par la fenêtre, qui peut paraître banal, va vite dégénérer lorsqu'il y a du vent et lorsqu'il fait chaud. Voilà. Donc je ne peux que inviter vos auditeurs à être extrêmement vigilants lorsqu'ils fument, notamment en bord de route.
Ben oui, et on l'a vu encore dans les Landes il y a quelques mois de cela, hein, cette dramatique incendie sur le bassin d'Arcachon, évidemment.
Oui.
Les forêts. Oui. Heureusement, les pompiers en Dordogne veillent chaque année,
hein,
pour qu'on n'ait pas de drame comme ça, ni sur notre patrimoine, que ce soit bâti ou forestier. Et on le rappellera évidemment tout au long de cet été. Merci beaucoup, Alain Rivière, pour ces quelques minutes. Je rappelle donc aux éditions Les Livres de Lilo, cet ouvrage que vous signez, Hautefort en flammes. Où peut-on se procurer ce livre ? Au château de Hautefort, je suppose, mais pas seulement.
Alors, bien sûr, à la boutique du château, il est en bonne place, mais aussi dans les librairies de Dordogne. sinon sur le site internet de l'éditeur, les livres de Lido.
Merci beaucoup. Est-ce que ça vous a donné envie de relater dans un autre ouvrage, un autre incendie peut-être du département ou d'ailleurs
Ou oui, d'écrire un livre? Alors, j'aurais aimé poursuivre la rédaction de cet ouvrage par le volet judiciaire, parce qu'il y a eu un volet judiciaire dans cette affaire, parce que la baronne, à l'origine, ne voulait pas porter plainte parce que c'était ses invités. Oui. Mais compte tenu du coût du sinistre et de la faible assurance qu'elle avait souscrite, qu'elle avait un contrat pour 1 million de francs, alors que les dégâts ont été estimés à entre 7 et 8 millions de francs, elle était loin de couvrir les dégâts par son assurance. Donc il y a eu procès contre les deux jeunes filles et ses parents. Et donc il y aurait, je pense, à poursuivre l'ouvrage pour aller sur le dossier judiciaire. Voilà. Mais bon, c'est
plus compliqué.
Un deuxième temps.
Deux jeunes femmes qui sont encore vivantes, que vous pouvez rencontrer, que vous avez pu rencontrer.
Oui, j'ai pu rencontrer du groupe de 8, ils étaient 8 jeunes. J'ai rencontré deux jeunes filles, pas deux jeunes filles de l'époque, qui aujourd'hui ont entre 70 et 80 ans, qui se souviennent très très bien, malheureusement, de cette visite dans les combles. Ce ne sont pas ceux qui sont à l'origine de l'incendie, mais qui, après coup, auraient pu l'éviter. Ils ont bien entendu quelques remords aujourd'hui. Mais les personnes, les deux jeunes filles qui sont à l'origine de l'incendie, elles sont encore vivantes, je sais où elles sont, mais elles n'ont pas voulu répondre à ma sollicitation. C'est encore très sensible, je pense.
Qui est l'auteur de la une de ce livre « Hautefort en flammes » puisque c'est une peinture?
Alors, c'est Jean-Michel Lafort.
Ah oui.
Qui est un ancien préfet qui écrit beaucoup d'ailleurs et qui est un artiste hors pair, donc qui a pour l'ouvrage réalisé ses pastels. Voilà. Bon. Très très belles pastels.
Absolument, et que l'on peut voir donc aussi dans cet ouvrage Hautefort en flammes. Merci beaucoup Alain Rivière pour ces quelques minutes.
Au plaisir. Bonne journée, à bientôt, au revoir.